Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview d'une femme inspirante. Aujourd'hui, on est avec Johanna Awakening. Bonjour Johanna.
Salut.
Aujourd'hui, tu es en direct du Cambodge, c'est ça?
Ouais, comme toutes les vidéos, oui, toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, je pense à en faire dans d'autres pays quand je bouge, ça serait bien pour faire découvrir aux gens qui n'ont pas la chance de voyager. Petite, pas spirituelle, mais des petites vidéos de road trip, voilà. Mais bon, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la vidéo.
Des petits vlogs. si, j'ai vu, tu as fait un vlog déjà sur l'Inde, c'est ça?
Sur l'Inde, enfin, je racontais juste, mais sur le Japon, oui, on avait fait plein de... On avait filmé plusieurs séquences et tout, et ça permettait d'avoir un short, une petite vidéo et qui permettait justement de se rendre compte de ce qu'était le Japon en 5 minutes. J'avais trouvé ça cool pour les gens qui ne voyagent pas. Donc, voilà.
Ouais, moi aussi,
mais oui, aujourd'hui, Cambodge.
Donc aujourd'hui, tu es en direct du Cambodge. Et alors, tu as un parcours assez particulier puisque tu es sortie d'une école d'architecture pour aujourd'hui arriver à faire des soins énergétiques au Cambodge à distance. Alors, c'est un petit peu ça sort de la normale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours?
Alors, en rapide, hein, parce que sinon, ça prend 10 ans. À la base, j'ai fait une école qui s'appelait l'IDAE à Bordeaux, qui était une école de design et d'aménagement d'espace. C'était même pas un truc d'archi. J'ai fait ça en contrat de qualif, donc moitié en contrat d'alternance et moitié à l'école, ce qui valait à un bac plus 3. En sortant, on m'a dit « tu n'as pas le droit d'être architecte ». Et j'étais déjà un petit peu…
Rebelle.
Ouais, enfin, je sais pas si j'utiliserais le mot rebelle. Disons que moi, plus on me dit t'as pas le droit, plus j'ai envie de le faire. Enfin, c'est et du coup, j'ai quand même monté ma boîte. Je suis arrivée à Paris. Je suis partie en Australie d'abord pendant plus de 7 mois. J'ai été merchandiser là-bas. C'est ceux qui font les vitrines, etc.
D'accord.
Et quand je suis rentrée à Bordeaux, j'étais plus du tout en phase avec ce qui se passait à Bordeaux. Je suis partie à Paris pour voir quelqu'un avec qui j'étais en Australie et donc pour le rejoindre à Paris. Et j'ai trouvé un taf comme ça. J'ai postulé en me disant « bon, on verra bien, tu vois, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis ». Et j'ai trouvé un taf, pas du tout dans l'architecture. Et en fait, c'était dans la vente. Au bout de 6 mois, ça m'a c'était pas possible. Et du coup, j'ai tout quitté pour monter ma boîte d'archi. Tout le monde, mais sans exception, à part mon frère et un ami à moi qui était avocat à l'époque et qui m'a aidé à monter ma structure. Personne n'avait confiance en moi. Tout le monde m'a dit « mais tu te rends compte, tu as 23 ans, tu ne peux pas monter une société maintenant, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le diplôme » parce que clairement, je n'avais pas le diplôme d'architecte d'intérieur parce que je n'étais pas architecte, j'étais architecte d'intérieur. Et donc, tout le monde m'a dit, à part mon frère et ce mec-là, « vas-y, tu peux y arriver, fonce, je vais t'aider ». Et en fait, je me suis dit, je me laisse 6 mois. Puis au bout de 6 mois, j'arrive à me verser mon premier salaire, c'est bien. Sinon, je serai caissière à Carrefour. C'est pas grave. Je veux essayer, je veux pas avoir de regrets. Parce que je sais que si j'essaye pas, chaque action de ma vie, je me dis toujours, pour pas regretter, pour savoir si je dois le faire ou non, je me visualise sur mon lit de mort à me dire, est-ce que si demain c'était mon dernier jour, est-ce que je serais pas dégoûtée de pas avoir tenté ce truc-là? Et je me suis dit, mais si, carrément, tu vois, enfin, faut que je le fasse. Et du coup, j'ai monté ma boîte, puis ça a marché. Et tout le monde m'a dit, ah, mais j'ai toujours cru en toi, tu sais. Et voilà, c'était ma petite victoire, tu sais, l'envie de prouver aux gens que tu es capable d'y arriver. Et du coup, j'ai gardé cette boîte 3 ans. Et après, du jour au lendemain, mon père vit en Thaïlande. Il est venu nous voir en France avec mon mari actuel. Il est venu nous voir et puis mon mari m'a dit « Moi, je ne veux plus vivre en France. Je vois ton père, il a l'air trop heureux. Il faut qu'on parte. » Et je lui dis « Je veux bien, mais quand ?»« Je ne sais pas. Il faut qu'on mette les trucs en place et tout. » Et je lui dis « D'accord, on met les trucs en place. On achète les billets maintenant. » Ah mais non, je pensais pas à ça. Si, il faut qu'on se donne une deadline, tu vois, parce que sinon on va jamais le faire. Puis on a acheté les billets et voilà, on est parti au Cambodge à l'arrache. On a clôturé nos sociétés en France parce que lui aussi il y a une société d'archi et à la base on voulait faire de la pâtisserie au Cambodge.
D'accord.
Et donc en fait, on avait acheté nos robots pâtissiers, on avait 30 kilos pour venir vivre en Asie et le robot pâtissier en faisait 12. Donc on avait chacun notre robot pâtissier avec objectif de faire des pâtisseries. Au final, on les a revendus, on n'a jamais fait de pâtisserie. Et un matin, je me suis levée, je soignais des gens en magnétisme déjà depuis un bon bout de temps, depuis que j'étais gamine. Et tu sais, ça m'était jamais venu à l'esprit de me dire, mais en fait, j'aime faire ça. Enfin, ça fait partie des choses. Et un matin, je me suis levée, je tombais sur une vidéo sur Internet et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai tout lâché. J'ai commencé à faire des soins, j'ai lâché la boîte dans laquelle j'étais. J'ai repris une autre boîte d'archi ici où je travaillais à mi-temps. Je faisais les soins le matin et je travaillais l'après-midi. Puis au bout d'un moment, j'arrivais plus à gérer les deux. Et du coup, j'ai tout lâché. Un salaire d'archi ici. J'avais peut-être 3 soins par mois au début. Donc, c'était pas possible d'en vivre du tout. Parce que beaucoup de gens pensent que le Cambodge, c'est pas cher. Faut vraiment pas se leurrer sur ça. Effectivement, si on prend un appartement sans clim, avec des barreaux aux fenêtres, mais avec pas de fenêtres, parce qu'il y a beaucoup de mères qui dorment juste avec des moustiquaires. Nous, on a besoin d'un confort d'expat. Et du coup, on n'a pas du tout le même
expat.
Tu passes au tarif d'expat et c'est pas du tout le tarif Khmer, quoi. Donc, au début, j'en vivais pas. Et du moment où j'ai lâché mon taf, je me suis dit, advienne que pourra. Et j'ai lâché et c'est comme si la vie m'avait aidée. J'avais demandé avant en disant, bon, si c'est ce que je dois faire. J'aimerais bien que d'un coup il y ait beaucoup de demandes, tu vois, que je puisse en vivre, que j'ai pas la peur au ventre de me dire bon, je sais pas comment je vais payer mon loyer et tout. Et en fait, du moment où j'ai démissionné, le lendemain j'avais mis un post sur la page Facebook que j'avais déjà ouverte à l'époque. J'avais mis un post en disant bon, maintenant j'ai du temps, donc je peux prendre des soins tout le temps. Et un mois plus tard, j'étais bookée sur 3 mois.
D'accord. Ah ouais, donc ça voilà. S'est passé hyper vite.
Hyper vite, ouais.
Bon, ta page Facebook, c'est la communauté
Celle de Awakening in Conscious Life.
Voilà.
C'est sur...
Je crois que tu as une page et tu as aussi une communauté sur Facebook.
Un groupe, ouais, c'est ça. Il y a un groupe privé qui est tout neuf, qui a 2 mois, pour que les gens puissent échanger.
D'accord, donc c'est hyper actif. Les gens font des photos quasiment tous les jours en disant qu'est-ce qu'on fait sur cette photo. D'accord. Donc, il y a vraiment une belle communauté derrière toi qui te suit et donc qui a été créée auparavant. Tu faisais des vidéos avant de te mettre à ton compte ?
Non, j'ai commencé les vidéos fin novembre 2015, si je te dis pas de bêtises, et j'ai arrêté l'archi totalement fin avril. Donc, 5 mois plus tard. Voilà.
Ok. Ouais. Okay.
D'ailleurs, tu peux regarder les vidéos de départ. Je parle pas comme je parle aujourd'hui.
Ouais, c'est normal.
C'est normal, mais tu vois, tout ça pour dire qu'il faut commencer quelque part. Ouais. Et que, bien sûr, on prend de l'assurance avec le temps, qu'on peut pas, il y a 3 ans, 3 ans qui sont passés entre temps. Et, on prend de l'assurance, on prend de la confiance, et puis on apprend aussi à en avoir un peu rien à faire de ce que les gens pensent. On fait les choses pour nous parce que ça nous fait plaisir de les faire. Mm. Et je pense que c'est ça l'important dans la vie.
C'est ça, clairement. Ouais. Que ce soit les vidéos ou je pense n'importe quoi dans notre nouveau métier, plus on le fait, mieux on va le faire en fait. Mais il faut juste oser le faire, même si c'est pas parfait dès le début.
C'est ça.
Est-ce que peux nous parler un peu plus du coup des soins que tu fais, d'où ça vient, comment ça s'est réveillé en toi, et puis aujourd'hui qu'est-ce que tu proposes pour aider du coup tes clients, tes patients?
En listant, il y a le soin psycho-énergie qui est arrivé dès le départ. C'est celui que je faisais à tout le monde. Alors maintenant, il est super complet. Le compte-rendu est super long. Au début, il était beaucoup plus court, tu vois, parce que je voyais beaucoup de choses, mais je ne savais pas comment les écrire, comment les transmettre, comment les expliquer. Et du coup, les comptes-rendus étaient super courts au départ. Donc, il y a le psycho-énergie. Après, il y a le Anahata qui est arrivé parce que les guides m'ont dit c'est pas suffisant que tu fasses que le psycho-énergie. Il faut que tu fasses un autre soin avec l'énergie que du cœur. Donc, le psycho-énergie, c'est comme un nettoyage, en fait. D'accord. Le soin Anahata, c'est qu'avec l'énergie du cœur, donc de mon cœur et de ceux des guides quand il y a besoin de renfort. Okay. on va dire ça comme ça. Du coup, en fait, l'énergie du cœur, elle agit pas du tout. C'est pas moi, volontairement, qui vais faire quelque chose. C'est je la mets là où il y a blocage et j'observe ce qui se passe. Et je décris à la personne ce qui s'est passé. Donc, je choisis pas ce qui va se passer. Et après, il y a le soin de la trame qui est arrivé longtemps après, et ça doit faire peut-être, je sais pas, 6-8 mois peut-être qu'il est là. J'avais lu un bouquin sur la trame et j'ai entendu des guides qui m'ont dit « Mais tu te rends compte que tu peux faire ça et tu dois le faire parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour soigner que les maux physiques. » Principalement, après il y a d'autres choses qui en découlent, mais à la base c'est pour ça. Et en fait, le corps est fait d'une sorte de trame, et on remet la trame du corps droite et fluide partout là où ça bloque physiquement. Voilà. Et sinon, avant je faisais des guidances, du Reiki et des voyances, et j'ai décidé d'arrêter parce que le Reiki, pour moi, ça a été une énergie qui a été galvaudée et qui sur laquelle beaucoup de gens ont surfé pour faire de l'argent, elle a été salie et je trouve qu'elle est plus aussi jolie qu'avant et elle est pas aussi puissante que l'énergie anatta et cosmotellurique, les deux qu'on utilise pour les autres soins.
D'accord. Cosmotellurique, dans tes vidéos, t'expliques que c'est ce qu'on appelle aussi le prana.
L'énergie cosmotellurique, cosmos, c'est le cosmos, donc la terre et c'est l'inverse. Telluros, la terre, et cosmos, l'univers. Mm-hmm. Et du coup, c'est l'énergie de la vie, enfin je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. C'est pas le prana, c'est l'énergie cosmotellurique manifestée dans notre monde à nous. On va dire que c'est la partie visible de l'iceberg.
D'accord.
Voilà. Et du coup, oui, plus de voyance et plus de guidance, parce que je suis en train de créer l'école ici, basée sur le principe Montessori, mais j'ai pas envie de me limiter à Montessori.
D'accord.
Je veux passer ce que je suis à l'intérieur de cette école, donc tout ce que j'ai appris, l'apprendre aux gosses sur le fait qu'il y a un monde invisible, que voilà, on peut leur parler, qu'ils peuvent nous aider, enfin voilà, qu'ils se coupent pas de tout ça, parce que quand ils sont petits, la plupart du temps ils le voient déjà et ils s'en coupent parce que ce n'est pas la normalité. Et aussi parce que j'ai aussi décidé de plus faire de guidance et de voyance. Les guidances, donc, c'est principalement parce que j'ai pas le temps. Les voyances, c'est parce que dans les voyances, la plupart du temps, j'aidais les gens à, comment dire ça, à satisfaire leur mental qui se posait des questions. Et j'ai plus envie de faire ça maintenant. Alors je vais peut-être passer pour une pauvre conne, c'est pas grave, je veux plus aller dans le sens des mentales, enfin des manteaux, ça se dit pas vraiment, enfin des mentales en ébullition, et j'ai plus envie de satisfaire les questions du mental. Donc
ce matin j'entendais une personne qui disait mon mental qui rumine, mon mental il est un peu vieux jeu maintenant, ça suffit.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et après, il ne faut pas vouloir s'en défaire, comme beaucoup de religions le disent. Dans le bouddhisme, typiquement, j'adore le bouddhisme. Je dirais que si je devais choisir une religion, ça serait peut-être celle-là. Mais je n'aime pas l'idée de se défaire du mental. Comment tu peux te défaire d'une partie de toi?
Ah, il est utile pour certaines choses.
Bien sûr, tu vois. Il faut le domestiquer. Domestiquer, c'est comme un petit chien à qui tu donnes un nonos quand il reste bien à sa place. Eh ben, c'est la même chose. Voilà. S'il est mignon, gentil et qu'il intervient quand c'est utile d'intervenir, ben, faut le féliciter. Mais il faut savoir le remettre à sa place quand il prend trop de place et qu'il se croit tout puissant, quoi.
Ouais. Voilà. Dans tes vidéos, quand tu parles, on sent bien que t'as vraiment envie de nous encourager à écouter nous-mêmes notre intuition, écouter nous-mêmes nos guidances. Et apprendre à nous faire confiance, en fait. C'est ça, hein. Il faut se faire confiance pour être capable de comprendre les messages qu'on a déjà en nous.
Ouais, exactement. Exactement, je pouvais pas dire mieux. Ouais, c'est exactement ça. Exactement.
Et donc, du coup, c'est ça que tu voudrais enseigner, notamment dans l'école que tu es en train de créer au Cambodge.
Ouais, enfin, c'est ça parmi des milliards d'autres trucs, mais oui, c'est basé sur ça, sur faire des enfants qui ont pas envie, enfin, j'ai pas envie qu'ils correspondent à ce que la société veut voir d'eux. Je veux que chaque enfant arrive à trouver son potentiel et qu'il l'exprime et qu'il l'applique pleinement dans son quotidien. Tu sais, il y a une histoire, je crois que c'est Einstein, si je dis pas de bêtises, qui a dit, mais comment tu veux apprendre à un poisson rouge à grimper un arbre? C'est pas qu'il est con, c'est qu'il sait pas grimper un arbre. Et en fait, c'est exactement ça. C'est chacun a son propre potentiel et tu peux pas jauger un enfant, un ado ou même un adulte parce qu'il sait pas faire telle ou telle chose. En fait, il sait pas les faire.
À partir de connaissances standards, en fait, on s'en fout.
Bah, c'est ça. Donc, on a chacun des prédispositions, on a chacun des facilités. C'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve sa mission de vie, en observant les domaines dans lesquels on est doué naturellement et où on n'a pas à faire d'efforts. C'est la base première pour pouvoir trouver ce pourquoi on est fait. On n'a pas une mission de vie à pas être compliquée. Ça va pas être un truc où tous les matins on se lève en se disant oh, putain je dois aller travailler, ça va être fatigant, ça va être horrible, je vais devoir voir telle ou telle personne parce que alors que je la déteste. Ça peut pas être une mission de vie, ça. C'est pas possible.
Voilà. Et toi notamment dans une de tes casquettes, bon parce qu'il y a, on a plein de choses dans la mission de vie, mais une des nombreuses casquettes que tu as dans cette mission de vie, c'est aussi de comment ça s'appelle, passeur d'âme, c'est ça, d'aider les personnes qui sont pas ici incarnées ou qui sont plus incarnées à monter dans la lumière.
Oui, je le fais au quotidien, mais en fait je le fais tellement je l'ai tellement fait que maintenant en fait je pense que c'est pas une partie de mission de vie. Je pense que tout le monde a cette capacité à la base, du moment où tu as clairaudience et donc du moment où tu arrives à faire taire ton mental, tu as forcément clairaudience. C'est le mental qui parasite la clairaudience. On l'a tous à la base. Ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a de plus que les autres. Et du coup, bah oui, je le fais parce que je les entends. Tout comme dans la vie de tous les jours, tu vois quelqu'un galérer, tu vas l'aider. Enfin, c'est... Voilà, et donc j'irai pas à dire, j'aime pas ce mot, tu sais, c'est hyper prétentieux, je suis passeur d'âme. Enfin, c'est, j'aime pas tout ce qui peut satisfaire le mental qui va se dire, ouais, je suis passeur d'âme, tu vois. Et voilà, du coup, ouais, non, voilà, j'aime pas les casquettes et les badges et tous ces trucs-là. Oui, je le fais quand c'est à faire et ça arrive régulièrement, effectivement, parce qu'il y en a plein, surtout au Cambodge. Donc oui, ça arrive super souvent. Mais tout le monde a cette casquette.
D'accord, tout le monde a cette possibilité-là à partir du moment où on développe clairaudience. Et tu proposes notamment plein d'exercices sur le sujet, donc ça c'est une super aide, merci. Du coup, bah, avec ces anecdotes de clairaudience, tu rencontres des gens, des peuples dans l'invisible. Alors pour les petites anecdotes, tu as rencontré Whitney Houston, tu as rencontré des extraterrestres, des êtres de la nature, des guides, peut-être des anges. Et puis aussi, je crois que tu as eu affaire à l'ancien dictateur du Cambodge.
Ouais, Pol Pot.
Donc, tu as quand même rencontré pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout tous ces peuples de l'invisible, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à quel niveau?
Pour les fantômes, alors il y a des gens qui vont gueuler, qui vont dire oui, c'est pas des fantômes, c'est des esprits. C'est des fantômes. C'est un mot, alors ça c'est pareil, c'est des gens qui veulent, désolé, ça va être super vulgaire, qui veulent péter plus haut que leur cul. C'est des fantômes, on est gamin, on appelle ça un fantôme, tu vois, c'est juste pour dire non, il faut pas les froisser, c'est des fantômes. C'est des gens comme toi et moi qui sont morts, qui ont plus d'enveloppe corporelle. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut pas en avoir peur. Quand tu sors dans la rue, t'as pas peur. Enfin, ça dépend où tu vis, mais sinon, en règle générale, t'as pas peur. Mais c'est exactement pareil avec les fantômes. C'est, on a peur de ce qu'on voit pas et de ce qu'on connaît pas. C'est pour ça qu'il y a une peur. Mais après, quand tu les vois, au début, tu flippes comme pas possible parce que tu te dis que ce que tu vois, c'est pas normal. Et puis après, voilà, t'apprends à les voir tout le temps. Ça m'arrive encore d'avoir peur parce qu'ils me surprennent. C'est pas parce que j'ai peur du fait de les voir. Et ben eux, voilà, c'est juste des gens comme toi et moi. Après, il y a des gens, tout ce qui est guide, ange, etc. C'est aussi des gens comme toi et moi, mais qui ont fait un chemin d'évolution personnelle plus loin, plus profond dans leur soi, dans leur partie divine, et donc qui ont acquéri des connaissances qui permettent d'aider les autres. Donc, c'est juste ça. Et les êtres de la nature, ben c'est des êtres qui vivent dans la nature. Il y en a aussi dans des endroits comme sur certains balcons. Quand je vivais à Paris, j'avais des petits trucs dans mon balcon, en même temps des petits êtres de la nature, parce que tout ce qui est fée et tout, ils détestent ces mots-là. Les fois où je les ai entendus, ils m'ont dit non mais fée, mais c'est quoi ce mot de conte Disney? Enfin, tu sais, c'est des trucs. C'est comme nous si on nous appelait oh les mignons petits humains, tu vois. Enfin, voilà. C'est le même principe.
C'est pas un mignon petit humain.
Mais ouais, c'est exactement ça. T'es fait, ça fait trop le truc trop cute, tu vois, genre. Ah, les petits. Non, il y en a qui sont pas mignons du tout, comme je le raconte dans mon livre, tu vois, où en Suisse, j'avais rencontré des elfes sauvages des forêts. Au début, c'était mon début de clairaudience et clairvoyance. Je ne les voyais pas, je les sentais. Ils m'ont pris à la gorge, me faisant sentir que je n'étais pas du tout la bienvenue là où j'étais. Donc, il y en a des vraiment pas sympas. Mais exactement comme dans le monde humain, tu as des gens qui sont pas cool et il y a des gens qui sont cool. Voilà, dans tous les mondes, il y a des gens amour et des gens qui sont en manque d'amour. Voilà.
Donc, ça veut dire que là, dans le jardin qu'il y a sous ma fenêtre, dans la plante de basilic qu'il y a devant ma fenêtre, il peut y avoir un être invisible ?
Ça peut. C'est pas obligatoire, mais ça peut, ouais.
D'accord.
Ouais, il y en a partout. Après, plus ton étendue de verre est grande, plus il y a de chances que tu rencontres ces êtres-là. D'ailleurs, au stage au Cambodge, dans les temples d'Angkor, on apprend à voir les EDN, parce que c'en est plein, partout.
Ok, voilà. Donc EDN, être de la nature. Hein.
Ouais, pardon. Ouais.
Pour voilà. Continuer à suivre.
Attends, j'ai un dernier truc, excuse-moi. Ouais. Quand j'ai rencontré Whitney Houston, quand j'ai rencontré Michael Jackson, je me suis dit, mais je suis complètement tarée, ma pauvre fille. Pourquoi ils vont venir te voir, toi ? Et parce que moi aussi, j'ai bien sûr douté. Et ça, je veux le dire pour les gens à qui ça pourrait arriver. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi moi ? Et ben, les guides m'ont dit, et pourquoi pas ? Voilà, tout simplement. Non, mais c'est important de le dire parce que tu vois, tu te dis toujours, mais je suis dingue. Pourquoi ils viendraient me voir moi ? Enfin, tu sais, je suis qui ? Je suis une nana. Je vivais en France pour Whitney Houston, tu sais. Je me suis dit, attends, elle meurt aux US, elle vient en France. Et pourquoi ?
Elle paye plus les billets d'avion, alors elle peut se balader.
Ben ouais, tu vois. C'est clair. Donc voilà, pourquoi pas.
Donc là aussi, en fait, si quelqu'un reçoit des messages d'un esprit et qui lui semble un peu farfelu, il faut qu'il fasse confiance à ce qu'il ressent
à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, en fait. C'est ça qui est important, parce que bien sûr qu'il y a des esprits qui vont se faire passer pour Jésus, pour ce que tu veux, qui le sont absolument pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est attirer l'attention, qu'on s'occupe d'eux, et ils sont prêts à mentir pour ça. Et du coup, ben, il faut arriver à sentir ce qui vibre dans ton cœur. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais tu sens à l'intérieur de toi, si tu mets ton mental de côté, tu sens si ça vibre amour ou si t'as une petite réticence, t'as un petit truc qui dit « Ouais, non, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Mais c'est en ça qu'il faut faire confiance, en son intuition et vraiment ce qu'on ressent instinctivement. C'est ça, c'est l'instinct. La première chose qui va, la première sensation, la première émotion qui va arriver à toi, c'est ça la bonne. Et ce qui va arriver après, c'est le mental.
D'accord. Voilà. Okay. Bonne astuce, retenez bien.
C'est simple, c'est le cœur, c'est compliqué, c'est le mental. Okay. Voilà. C'est simple que ça.
Du coup, quand on travaille au quotidien avec tout un monde invisible et plein de peuples qui sont dans l'invisible, comment est-ce que tes proches voient ça ? Et puis, plus particulièrement dans la relation de couple, est-ce que tu peux parler de tout ça dans le couple ? Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là ?
J'en ai parlé pendant un temps. Jusqu'au jour, il m'a dit que ça le saoulait que je lui parle de ces trucs-là, que c'était pas qu'il me croyait pas, mais qu'il n'y croyait pas. Donc, en fait, il m'a dit, heureusement que je sais que t'es pas folle.
D'accord.
Et que, voilà, donc je sais que t'es pas folle, mais ton monde à toi, ça m'intéresse pas. C'est pas son monde à lui. Et à côté de ça, ce qui est assez marrant, c'est que des matins où il se lève super crevé, un gros mal de tête et tout, il me dit, je suis pas parasitée, là.
Fais-moi un nettoyage.
Non, fais-moi un nettoyage vite fait. Donc, du coup, tu vois, c'est marrant parce que j'y crois pas, ça m'emmerde, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais en même temps, je sens que des fois, il y a des trucs bizarres que je contrôle pas. Et il fait ses affirmations positives, tu vois, parce que des fois, il est négatif. Et je lui dis, mais en même temps, tu attires à toi ce que tu es. Alors, du coup, maintenant, il fait ses petites affirmations positives. Et il s'est passé des trucs, parce que lui aussi a démissionné, etc. Et il a reçu de l'argent, par exemple, mais comme ça. Enfin, genre, il savait pas d'où ça... Enfin, il savait d'où ça venait, mais il n'y avait pas de raison pour que ça vienne à ce moment-là, tu vois. Et du coup, il m'a dit... Je lui dis, bah, tu vois, ça vient quand même depuis que tu fais tes affirmations. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que ça coïncide, mais bon, tu vois, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est possible que ce soit ça. Voilà. Donc, on n'en parle pas au quotidien. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis Johanna thérapeute. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, je suis Johanna tout court. Et du coup, je râle, je me plains, je crie, ça m'arrive, je pleure, tu vois, enfin, comme tout le monde en fait. Et dans mon couple, je lui dis pas, oh, attention, il y a un fantôme derrière toi, tu vois, enfin, c'est une vie normale en fait de tout le monde.
Ouais, tu peux débrancher quoi en dehors des séances.
Ah, je dois. Sinon, tu vois, je pense qu'après, tu vis dans un monde qui est trop déconnecté de ce qu'on est censé vivre. Faut pas oublier qu'on est peut-être des êtres spirituels, mais vivant une incarnation humaine. Donc, y en a beaucoup qui ont débranché du monde humain et qui sont devenus schizo. Typiquement, beaucoup de personnes schizo ou qui sont enfermées en HP, qui disent qu'ils voient des éléphants roses, etc. Ils sont pas fous, ils les voient réellement. Mais sauf qu'en fait, dans ce monde actuel, tu peux pas raconter à tout le monde que tu vois des éléphants roses. Sinon, on te met sous traitement, tu vois. Et du coup, oui, je pense réellement qu'ils voient des choses. Mais ils ont tellement trop déconnecté de l'ancrage terrestre que du coup, ils sont trop dans ce monde-là. Et le juste milieu, c'est toujours ce qui est juste.
Alors, justement, l'ancrage, donc c'est quelque chose d'hyper important. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, si toi, tu utilises des rituels on va pas parler de rituels peut-être, mais juste si tu as des habitudes de nettoyage de toi-même ou de ta maison et de protection. Le nettoyage et la protection, j'ai l'impression que c'est deux sujets qui sont quand même importants.
Je le fais jamais.
D'accord.
L'ancrage, je l'ai fait au début énormément, mais vraiment énormément. Et je pense qu'après, ça m'arrive de le refaire quand je sens que j'ai fait un soin qui était super lourd. Par exemple, avant de passer au patient suivant, pour ne rien lui passer, je suis obligée de me nettoyer. Et du coup, oui, effectivement, quand je sens que il y a eu un patient qui était très lourd et difficile à traiter, je manque, mais plus pour la personne, le patient d'après que pour moi, parce que je sais que sur moi ça va pas rester. Je me fais de temps en temps, quand j'y pense, je me fais des sortes de, comment expliquer ça, de bulles glissantes. Du coup, en fait, je garde rien sur moi, tu vois. Enfin, ça passe, ça s'accroche un peu, puis ça glisse et c'est rare que je me sente vraiment parasitée, tu vois. Vraiment. D'accord. Voilà. Mais après, oui, effectivement, ça m'arrive souvent sous la douche. Et c'est, oui, tu peux appeler ça un rituel, tout ça, ça m'arrive souvent, c'est pas un ancrage, mais je me douche, je demande à l'eau de me nettoyer vraiment en profondeur et de tout enlever, tu vois, dès que je me lave les cheveux et que donc j'ai le pommeau douche bien au-dessus et que ça coule partout, je fais en sorte que l'eau nettoie vraiment tout et je visualise que tout part dans la terre, tu vois, je fais ces trucs-là. Mais l'ancrage, au début, le temps que ton corps comprenne comment s'ancrer et comment augmenter sa vibration pour ne plus se faire parasiter, c'est primordial. Je dirais que peut-être ça fait 10 ans que j'ai commencé à me pencher sur mon cas. Et je dirais que ça fait peut-être... j'ai dû faire les 5 premières années, à peu près.
L'ancrage, okay.
Donc,
Tu parles là d'augmenter ta vibration. Je suis en train de faire en ce moment un challenge 100 jours pour augmenter ma vibration où chaque jour, je fais une petite étape. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert d'augmenter sa vibration et peut-être un petit conseil?
Oui. Augmenter sa vibration, c'est de plus en plus dans le cœur, dans l'amour. Et du coup, ça sert à quoi? Ça sert à attirer à soi des choses plus sympas. Des situations d'évolution qui sont moins dures. Encore faut-il qu'on soit capable d'écouter ce que les situations nous apportent comme leçon. Si on n'écoute pas, bien sûr, la vie va te mettre des claques de plus en plus fortes jusqu'à ce que tu comprennes. Et ça sert à être de moins se laisser abattre par ce qui peut arriver de négatif. J'aime pas le mot négatif, positif, c'est la dualité, mais bon. De négatif qui arrive à toi. Donc, plus tu vas être ancré, plus tu vas augmenter ta vibration et plus tu vas arriver à laisser passer les émotions à travers toi et à ne pas te laisser ternir par ce qui t'arrive. Voilà. Et je te dis ça et je suis en train de me dire, et eux, ils sont en train de me dire aussi, oui, enfin, tu t'énerves beaucoup ici. Hein. C'est vrai que sur la route, je m'énerve beaucoup parce que
tu sais... Au Cambodge?
Ouais, je conduis et voiture et moto. Ouais, voilà. Et bah, rien que tout à l'heure, tu vois, je conduisais, il y a un mec qui m'a coupé la route pour faire un demi-tour et bien sûr, il ne va pas regarder son angle mort, il ne va pas regarder son rétroviseur parce que c'est une histoire de culture, tu vois, enfin, c'est différent.
Je comprends, à Naples, on a la même chose.
Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, en Italie, c'est ouais, voilà. Ben, c'est la même chose, donc tu peux imaginer, et j'ai beau m'ancrer, après je me recalme, je fais souvent la méditation Sarasasa, je l'ai sur ma chaîne, c'est un petit mantra super rapide, ça je le fais quand je suis en voiture ou autre et qu'il y a quelque chose qui m'a énervée, soit je fais le Om, je le chante, donc des fois il y a des gens, ils passent à côté de moi, ils me regardent genre, putain, j'ai entendu un truc bizarre, tu vois. Soit je fais le Sarasasa jusqu'à ce que la pression redescende. Donc, je m'énerve souvent, mais ça dure jamais longtemps.
Ok. Voilà. Un peu comme c'est le Dalai Lama. On peut être de mauvaise humeur. On peut être de mauvaise humeur, mais pas souvent, pas longtemps.
Il dit ça. Ouais, c'est ça. Ah, je savais pas. Tu vois, je savais pas qu'il disait ça, mais ouais, c'est ça. Ça franchement, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui la dernière fois, j'avais répondu à un post en disant que je m'énervais. Ah bon, mais je croyais que si on travaillait sur soi, c'était pour plus s'énerver. Bah, du moment où tu vis avec d'autres humains, si tu vis pas reclus dans ta grotte, obligatoirement, tu vas t'énerver. Mmh. Après, il y a des gens qui sont toujours là à te dire, oui, tu sais, c'est la pique facile quand t'es sur un développement personnel. Ah, tu vois, tu t'entraînes à travailler sur toi, mais tu t'énerves. Bah, oui, enfin, comme tout le monde, tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu travailles sur toi que tu t'énerves plus. Mais voilà, mais moins longtemps et ça passe beaucoup plus vite qu'avant, vraiment. Avant, un énervement le matin, ça pouvait me durer toute la journée, tu vois, où j'étais super énervée et tout. Maintenant, 10 minutes après, ça y est, c'est fini. Ça m'a énervée sur le coup parce que ça m'a titillé le mental. C'est ça, ouais, c'est le lâcher prise. Ouais,
carrément. Du coup, en parlant de transformation, comme tu sais, j'ai un blog qui s'appelle l'économie intuitive où j'essaie de rassembler un petit peu les informations sur quelle est cette nouvelle économie naissante, cette nouvelle société vers laquelle on est en train de tendre, parce qu'on voit plein de transformations un peu partout dans toutes les échelles, au niveau monétaire, au niveau de l'entreprise, au niveau de la relation que chacun a à sa propre carrière, enfin bon. Il y a plein de transformations. Est-ce que tu peux nous dire, toi, si ça te parle, l'économie intuitive, et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet-là?
Je pense qu'un nouveau monde est possible, mais qu'avant d'arriver à ce nouveau monde, l'être humain, pour avoir envie de changer, il faut qu'il ait quelque chose qui le fasse réellement chier. Tant qu'il a son petit confort, typiquement, je vais me faire des ennemis à dire ça, mais c'est pas grave. Typiquement, le français de base, tant qu'il a sa télé et qu'il a sa soupe le soir dans l'assiette, ça lui convient. Il va pas se poser de questions. Tant qu'il a de quoi s'acheter à manger et payer sa télé, ça le fait. Et il faut qu'il se retrouve vraiment dans le caca pour se dire, oh, mais non, on peut pas me faire ça. On peut pas me pomper jusqu'à ce que j'ai plus de quoi vivre, tu vois. Et donc, je pense que pour que le monde change, parce qu'effectivement, les gens changent très doucement, ça prend beaucoup de temps, mais pour qu'il y ait un changement radical, donc une fin du capitalisme, par exemple, je pense qu'on va devoir passer par une révolution 68, mais 2018, quoi.
D'accord. Voilà.
Donc, il va falloir un clash.
Par exemple.
Non, je pense que 2018, c'est un peu trop tôt. Je pense que ça arrivera un petit peu plus tard. Mais assez rapidement, quand même. Okay. Et d'ici là, ben, j'espère vraiment que les gens se seront, pour un maximum d'entre eux, réveillés parce que ça va faire mal. Ceux qui se contentent de leur vie du quotidien. Et moins tu auras une vibration haute quand ça va arriver, plus ça va faire mal. Parce que au niveau du mental qui était bien habitué à son petit train-train quotidien et son truc cool, ça va faire un changement, une électrocution, quoi. Donc, il va falloir que tout le monde se réveille d'un coup. Et malheureusement, c'est ça. Soit on évolue de notre propre chef, soit la vie va finir par nous obliger à le faire. Mmh. Et quand on vient à ce stade-là, en général, c'est pas super agréable. Mmh.
Donc, voilà. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à ça?
Suivre son cœur.
Ok.
C'est le seul conseil, tu vois, suivre son instinct, suivre son ah, mais j'ai envie de faire ça, mais bah, laisse le mais, fais le j'ai envie de faire ça. et suivre, mais pour tout, c'est pas juste pour sa mission de vie, c'est pas juste pour un travail, c'est, ça peut être pour un mari, une famille, des situations amicales, pour tout dans la vie, c'est hyper important. Alors effectivement, tu vois, je pense que plus on suit son cœur, plus on passe pour un gros con, parce que on correspond plus aux gens, tu vois. Et on ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de voir de nous.
Aux gens qui nous entouraient jusque-là, mais après, on va s'entourer de nouvelles personnes.
C'est ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a une bienséance qui est installée dans la société. J'en parlais hier lors d'une guidance. Il y a le « Salut, ça va ?» du matin. Tout le monde s'en tape que tu ailles bien. Mais ils te posent quand même la question. Est-ce que déjà, ça t'est arrivé à toi de demander un « Salut, ça va ?» mais d'attendre réellement la réponse et de te dire quand la personne te dit « Oui, oui, ça va ?» d'essayer de chercher si c'était vrai, si la personne, elle allait réellement bien, de prendre du temps pour elle. Et je pense qu'il y a tellement cette bienséance qui est installée que du coup, les gens se posent pas du tout la question à savoir ce qui se passe chez autrui, etc. Et voilà, du coup, plus tu t'écoutes, plus tu passes pour un con parce que tu corresponds plus à ça. Si tu dis aux gens « Salut, ça va ?» et que tu dis « Bah non, ça va pas. » « Oh, elle est chiante, elle se plaint. »
Ouais.
Tu viens de me le demander, tu vois. Enfin, fallait pas demander. C'est comme à Paris, les gens, ils ont le ouais, on se boit un verre. Et pourquoi tu le dis alors que tu vas jamais me rappeler? Tu sais, c'est ces trucs-là. Et du coup, la dernière fois, j'ai rencontré des personnes que j'ai vachement appréciées, qui étaient super sympas, mais je sais qu'on n'allait pas se revoir parce que c'était des amis d'une amie qui vivait en France et tout. Et puis, j'aurais dit, on se dit pas à bientôt parce qu'il y a de grandes chances qu'on se revoie jamais, mais c'était un plaisir de se voir. Et, tu sais, il y a eu un petit moment, genre, tu vois, c'est bizarre de dire ça comme ça, tu vois, alors que majorité des gens auraient dit, ouais, on se boit un verre quand je viens à Paris, ou, tu vois. Mais ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Donc, oui, plus tu suis ton cœur, plus tu passes pour un con. Mais bon, écoute, être con et heureux, ça vaut peut-être plus le coup que d'être sympa avec tout le monde et malheureux avec soi-même.
Ok. Voilà. Peut-être pour finir, un dernier petit conseil de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas encore franchir le cap de suivre vraiment leurs rêves, peut-être d'entreprendre, de créer une société comme toi, tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager?
Que si demain, ils devaient mourir, ils seraient bien dégoûtés de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et que pour prendre les décisions dans sa vie, certes, il faut écouter son cœur. Mais quand on n'arrive pas à écouter son cœur, simplement se demander, tiens, et si je devais mourir demain, est-ce que je ne serais pas dégoûtée de ne pas avoir tenté ce truc-là? Est-ce que je n'aurais pas des remords? Je pense qu'il vaut vraiment mieux avoir des regrets que des remords.
Ok, super. Voilà,
c'est le conseil.
Génial, merci. On peut te retrouver sur ton site internet, sur ta page Facebook, le groupe Facebook aussi qui est donc très actif, je vous le recommande, et sur ta chaîne YouTube.
C'est ça.
Par rapport aux soins, tu as des dates, c'est ça, pour les prises de rendez-vous?
Ouais, je sais que ça plaît pas à tout le monde, malheureusement, tu vois, voilà, ça fait partie des choses où pour plus avoir 6 mois de rendez-vous, effectivement, je prends les rendez-vous maintenant tous les 15 du mois. À 7h du matin, sauf quand ça tombe le week-end où je préviens tout le monde de dire ça sera soit le vendredi soit le lundi, et c'est à 7h du matin, heure française, tout le monde envoie un mail et je prends l'ordre des arrivées, enfin l'ordre des soins dans l'ordre d'arrivée des emails. Donc, et vu que je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que il se passe ce qu'il doit se passer, et je pense que ceux qui ont des places, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y a souvent des personnes qui râlent parce qu'ils n'ont pas eu de soins, parce qu'ils se sont levés exprès à 7h. Je suis super désolée, mais malheureusement, si je me respecte moi, je ne peux pas faire autrement, parce que je ne veux pas être bookée sur plus d'un mois, parce que j'ai une petite fille, parce que je ne sais pas si demain je ne serai pas malade, parce que je sais, enfin voilà, tu vois, être bookée sur 6 mois, c'est ce qui m'est arrivé au début. Et alors oui, il y a plein de gens qui vont dire, mais t'as de la chance, tu ne te rends pas compte. Oui, c'est une chance. Mais en même temps, c'est...
Pour avoir une vie aussi, quoi.
C'est ça, tu vois, je pense que la vie en tant que telle, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est super bien de faire sa mission de vie, mais il faut aussi vivre la vie, quoi. Donc, voilà, c'est tous les 15 du mois à 7h.
Ok, donc pour prendre rendez-vous avec toi et...
Voilà.
Et en attendant, on peut se préparer en faisant plein d'exercices que tu proposes sur la chaîne YouTube et qui sont
cool. C'est ça, l'ancrage.
Ouais.
L'ancrage. Ouais, ouais.
Génial. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette mission d'interview pour les 50 femmes inspirantes.
Et... Bah, merci à toi de penser que je faisais partie de ces 50 femmes. Ça m'a fait super plaisir. Ça a bien flatté mon ego. Merci.
Ah bon?
Non, ça fait plaisir. Je suis contente, tu vois. C'était pas un but premier. Mais c'est super sympa de pouvoir inspirer des gens et c'est super cool.
Ouais, voilà. Merci. En fait, clairement, quand les gens osent être qui ils sont, ils nous autorisent à nous, qui sommes derrière notre petit écran à regarder les vidéos YouTube, d'en faire autant et de pouvoir être nous aussi qui nous sommes. Donc, c'est en ça que c'est inspirant. Ouais.
C'est cool.
Génial. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, rajoute un petit pouce en l'air. Ça m'aidera à mieux référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao.